donc Jacques chapitre 4, versets 1 à 10. Ça fait quelques semaines qu'on étudie cette épître, qui est très riche en enseignement, et surtout en enseignement pratique. Jacques chapitre 4, versets 1 à 10. Voilà. Verset 1, il est dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Il y a quelques semaines qu'on parle de cette épître de Jacques, hein, de chrétiens qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté, mais qui vont passer par des tentations aussi au départ, hein, de vengeance, parce que quand on me fait du mal, généralement le premier réflexe c'est quoi ? C'est pas de bénir, c'est plutôt de vouloir se venger. Et ces chrétiens-là aussi avaient cette tentation de se mettre en colère aussi par l'injustice qu'il y avait à ce moment-là. Et puis Jacques va parler au fur et à mesure de choses que peut-être le chrétien minimise souvent, le favoritisme par exemple, c'est pas si grave pour certains. L'emploi de la langue, ça on en a tous une et on sait très bien ce qu'on en fait. On ne fait pas toujours des bonnes choses. On avait parlé la dernière fois de la sagesse dont nous avons besoin, je crois, chacun et chaque jour, hein, et qui s'apprend aussi au fur et à mesure. Et maintenant, il va aller encore plus loin, je crois, parce qu'il va parler de ces chrétiens qui se chamaillent tout simplement tous les jours, qui luttent, qui ont des convoitises, qui ont des querelles les uns avec les autres. Et finalement, globalement, on parle là d'une église un peu mondaine, quelque part. Des chrétiens qui sont dans le monde, des chrétiens qui sont tout simplement charnels. Et le Seigneur ne veut évidemment pas que l'on vive comme cela. Jacques commence, premier point, hein, l'origine des luttes. D'où viennent ces luttes qui sont au fond de nous ? Je sais que vous en avez jamais, je vous avais jamais de querelle, jamais de passion, rien du tout, mais je parle pour moi ce matin, on est bien d'accord. Jacques va identifier ces querelles et il parle aux frères, hein, parce qu'il y a des commentaires, ils disent qu'il parle des non-croyants, mais il dit plusieurs fois « frère ». Et un frère, pour moi, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et il fait là le triste portrait au quotidien des frères à l'église de Jérusalem, hein, dont il était le responsable à ce moment-là. Et il y avait des luttes. Le mot grec veut dire « il y avait des guerres, il y avait des combats, il y avait des querelles entre les chrétiens ». C'est possible, ça ? Non. On est sauvés, on est appelés à s'aimer les uns les autres. Et pourtant, vous voyez, il y avait ça. Ça, c'était évidemment l'église de Jérusalem, c'est pas la nôtre, heureusement. Le mot « querelle » veut parler de bataille à cause d'un différent. Des fois, on n'est pas en accord, et ben, plutôt qu'essayer de s'entendre, on préfère se taper dessus ou batailler avec la langue, comme on a vu la dernière fois, mais il y a un différent, on n'arrive pas à le régler. Et oui, les chrétiens aussi se querellent, les chrétiens se tapent les uns sur les autres, et parfois même ils sont plus durs que les païens. C'est ça qui est terrible, parce qu'on attend de l'autre qui est chrétien beaucoup plus, hein, que peut-être de ceux qui sont dans le monde. On est comme ça. Bon, pas nous, les autres, évidemment. L'origine de ces luttes, nous dit Jacques, et de ces querelles, c'est les passions. Ça vient du cœur. On avait vu beaucoup de choses viennent du cœur. Hein. La langue et tout ce qu'elle dit, mais aussi ses passions. Le mot parle de plaisir, de volupté, de délice, de jouissance. En d'autres termes, c'est la chair qui est tout simplement en train d'agir. Et la chair a des passions et elle veut les mettre en place. Dans la philosophie à l'époque, je ne sais pas si ceux qui connaissent l'hédonisme, hein, c'était vraiment l'idée d'aller chercher au maximum le plaisir. C'était le plaisir suprême pour l'homme que d'avoir plaisir sur plaisir sur plaisir. Et donc on satisfait évidemment la chair, et peut-être ça avait là des influences aussi dans l'Église. C'est le cas aujourd'hui, hein, de toute façon. On ne parle pas d'hédonisme, mais on essaye de chercher ce qu'il y a de meilleur dans notre vie. On doit acheter, et toujours avoir le meilleur, hélas. Mais eux, ces chrétiens, avaient des passions qui sont, comme il dit, les fruits de la convoitise, tout simplement. chacun d'entre nous, et il commence comme ça l'épître hein, de Jacques, avec ces fameuses convoitises qui sont là dans notre cœur, qui réagissent, et à un moment, ben, elles mènent tout simplement à la mort. Et on a encore des convoitises. La preuve, ces chrétiens, hein, qui étaient fidèles, comme nous certainement, mais dans le cœur, parfois, il y avait encore de la convoitise, et cette convoitise créait des passions, et forcément, quand on est trop passionné, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on pêche, tout simplement. C'est pas très terrible, la passion, en fait, généralement. Hein. Peut-être une passion amoureuse, mais généralement, c'est pas terrible non plus. Hein. Ça termine toujours mal. Mais bon, ça va souvent vers le péché. Voilà l'origine des luttes. Voilà pourquoi on agit des fois d'une manière ou d'une autre. Hein. Tout simplement parce que on veut convoiter ce que le prochain a. Alors, dans l'Église, ça se fait certainement pas. Mais si, ça se fait, il semblerait. J'aimerais bien avoir ce que l'autre chrétien a. Pourquoi moi, j'ai pas? Lui, il a du travail, il a une belle maison. Moi, j'ai pas une belle voiture, etc. Et je convoite tout simplement. Ou les premières places dans l'Église, hein, ça, on aimerait les convoiter aussi. Parce qu'on a envie d'être devant, etc. On a même envie de virer le pasteur, parce qu'on a envie d'être à sa place. Il y a toute forme de convoitise. Hein. Moi, je vous laisse la place tout de suite, je vais prendre des vacances. Hein. Mais voilà, le cœur de l'homme est là. Et c'est terrible parce qu'il travaille quotidiennement. Et c'est pas quelque chose, je crois, qui sera réglé une fois pour toutes. C'est quelque chose vers lequel on va lutter tous les jours. Et ces passions, là on est tout feu tout flamme, finalement, Jacques nous dit que ça nous frustre. Là on croit que ça va nous faire du bien, finalement ça fait carrément l'effet inverse. Ça nous fait du mal. Frustre l'homme et souvent le conduit au péché. Il dit, vous convoitez sans posséder. Je veux. Puis ça, hein, vous savez, vous connaissez ce que c'est. On a envie de plus en plus, mais on n'arrive pas à l'avoir. C'est pénible quand même quand on n'a pas ce qu'on veut. Hein. Ça fait mal dans le cœur. Convoiter, c'est le mot grec parle de cette chair qui veut désirer, même si c'est défendu parfois. On est capable de convoiter, même si on sait très bien que Dieu n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est tellement bon. C'est bon pour moi. Donc je convoite, tout simplement. Cette convoitise, ça nous rappelle les 10 commandements aussi. Tu ne convoiteras point ce qu'a le prochain, etc., la femme, etc. C'est un commandement de Dieu de ne pas convoiter, normalement, ce qu'ont les autres. Et le problème, c'est que ça frustre. Et finalement, à force de convoiter, on n'a toujours rien. Et on pense qu'à ça, en fait. Et ça nous rend fous, tout simplement. Et ça pousse parfois même à des mauvaises actions, parce qu'à un moment, on se dit, je ne peux pas avoir. Je vais aller le voler. Les chrétiens ne font pas ça, je ne pense pas, mais il y a d'autres techniques, on va dire. Hein, le cœur est tortueux par-dessus tout, et quand on a envie d'arriver à un but, on y arrive très bien. Et il dit, vous êtes meurtrier, il parle à l'Église, là. Vous êtes meurtrier et envieux sans obtenir. Hein. Deviennent envieux, c'est-à-dire, le mot parle de jalousie, de quelque chose qui brûle avec zèle au fond du cœur. On a déjà vécu ça, je crois, peut-être autrefois. Peut-être en tant que chrétien, j'espère pas, mais en tout cas, on est même prêt à aller jusqu'à tuer. Il ne dit pas forcément qu'ils étaient meurtriers, mais peut-être même prêt à faire quelque chose de terrible pour obtenir quelque chose dans sa vie. Mais ça le frustre, parce qu'il n'obtient pas, dit Jacques, tout simplement. Et cette jalousie, cette envie-là de meurtre, elle est au fond du cœur tous les jours. Et c'est ces chrétiens qui venaient louer Dieu le dimanche matin, alléluia, gloire à Dieu, et au fond du cœur, qu'est-ce qui se passe? Il vaudrait mieux d'abord s'arrêter avant de louer Dieu, je pense. Mais ça ne calmera jamais le cœur, ni la convoitise de ce cœur, que de vouloir toujours ce qu'a l'autre. Ça ne marchera jamais. En fait, ce qui est formidable dans cette épître, c'est que Dieu, au travers de Jacques, nous montre ce qui nous fait du mal. Et on ne le voit pas souvent. On est capable de voir la convoitise chez les autres ou leur passion, mais chez nous, s'il va aller faire un petit bilan, maintenant on prend tous une feuille, on dit c'est quoi ma convoitise, c'est quoi mes trucs. Vous êtes capable de le faire? Par contre, celle du voisin, elle est peut-être plus capable de le faire, hein? Eh oui. Mais il faudrait le faire de temps en temps. Faire un bilan sur mon cœur. Qu'est-ce qu'il convoite? Est-ce qu'il est passionné? Est-ce qu'il est jaloux, peut-être, de l'un ou de l'autre? Des querelles et des luttes sans posséder, dit Jacques. Hein? Le mot querelle, c'est un peu différent. On parle toujours de combat, mais et lutter, c'est guerroyer. On est en bataille tout le temps. On est en guerre tout le temps. Avec son cœur et avec peut-être quelqu'un dans l'Église. Prêt à tout obtenir. Et souvent, on ne se rend pas compte, ça nous attriste. C'est bien triste d'être comme ça. Le Seigneur, il ne veut pas ça dans notre vie. Lui, il veut la paix, l'amour, pas que cette chair se manifeste. Finalement, il veut notre bien, mais nous, on a envie. Je veux. Et ce « je veux » des hommes, vous le savez tous, ça frustre. Quelqu'un écrivait, en parlant de Georges, hein, Georges était l'image même de l'enfance rude et indisciplinée. Sa tignasse frisée et rousse allait de pair avec une personnalité extravertie et emplie de confiance de soi qu'accompagnait une langue pressante. Il avait seulement 3 ans, mais il savait toujours ce qu'il voulait. Il ne parlait que peu de mots, mais il les faisait tous compter, et en tout premier parmi ses expressions était « je le veux aussi ». Vous vous souvenez quand vous étiez gamin ? Quoique quelqu'un d'autre, surtout son frère et sa sœur, Georges en voulait aussi. Et dès cet instant, de sa bouche et de la main, il faisait la guerre jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait, ou soit repris par la discipline parentale ou l'autodéfense fraternelle. Je veux, hein, quand on était gamin. Ah, le camion du frère, là, je le veux. Et on était prêt à taper le frère pour l'obtenir, hein, ou la sœur, etc. Mais Jacques parle de chrétien, là. Je veux. Pareil. Qu'un d'autre écrivait, « J'en veux aussi » repose à la racine du second problème le plus profond de l'homme, le premier étant « Je veux être mon propre Dieu ». Et il y a peut-être là une relation entre ce « je veux », ce que possèdent les autres, et ce « je veux » dans le sens où on se prend pour Dieu soi-même des fois, et que les autres doivent tout simplement obéir à ce que je leur dis. C'est profond quand on y réfléchit un petit peu, ce « je veux ». Parce que normalement, le chrétien devait dire « qu'est-ce que tu veux ?» Pas tout à fait la même chose. Le « je veux » parle de notre ego, parle du chrétien charnel tout simplement, de cette chair. Mais finalement, Jacques dit tout ça, ça rend triste. Donc arrêtez de vouloir, parce qu'on va voir Dieu pourvoit. Donc c'est perdre son temps, quelque part, que de vouloir. Le problème, c'est que cette société aujourd'hui fait tout pour qu'on ait envie de plus en plus. Et voilà le problème. Verset 3, cette frustration vient de la manière de demander. Eh oui, savoir demander à Dieu. Et eux essaient d'obtenir des choses, mais ils les essaient de le faire par eux-mêmes. Et c'est ce qu'on fait bien souvent. Quand on a des projets, quand on a une décision à prendre, la première chose, c'est qu'est-ce que je pense dans ma grande sagesse, comment faire, etc. Et rarement, ou alors c'est vraiment en dernier lieu, on se met à genoux et on commence à prier, ou en famille ou avec l'Église, pour savoir ce que Dieu veut vraiment dans ma vie par rapport à ses projets. Et ça, forcément, si j'ai des projets dans l'argent, ou si j'ai des problèmes, si j'ai des soucis dans ma relation peut-être avec les autres, la première chose qu'il faudrait faire, c'est se soumettre à Dieu. Matthieu 7:7 dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Il n'est pas écrit « Allez chercher vous-même, débrouillez-vous et vous allez voir, vous y arriverez ». Des fois, on y arrive. Mais ce n'est pas forcément que Dieu soit d'accord. Des fois, Dieu nous laisse même faire pour qu'on y arrive. C'est pour qu'on prenne une bonne claque juste derrière. Mais si vous avez une décision à prendre, même des fois elle est minime, j'ai envie de dire, sans exagérer, choisissez la couleur de vos chaussettes le matin, je ne pense pas que vous ayez besoin de demander à Dieu pour ça. Mais on a quand même des choix dans la vie, et pourquoi pas impliquer Dieu là-dedans, plutôt que le « je veux », mon ego ou mes capacités, soi-disant, de grande sagesse. C'est génial quand même de savoir que quand j'ai une décision à prendre, je peux prier et demander à Dieu de m'aider. C'est pas génial ? Avant, on angoissait quand on ne connaissait pas Dieu, on essayait chercher des aides à droite et à gauche. Aujourd'hui, je peux être en paix, prendre le temps, parce qu'il ne faut pas non plus aller trop vite des fois, et tout simplement demander à Dieu « qu'est-ce que tu en penses ?» C'est génial. Mais est-ce qu'on profite du service ? Ça, c'est le problème. Et Dieu, des fois, doit nous regarder du haut du ciel en disant « ça y est, il se débrouille encore tout seul, tant pis pour lui, tant pis pour nous. » Mais savoir demander à Dieu plutôt que de convoiter, c'est ce que nous dit Jacques, Savoir demander finalement correctement. Parce que des fois, on demande aussi à Dieu. On sait s'arrêter des fois pour demander à Dieu, mais la super grosse bagnole. J'aime tellement une BMW, Seigneur. Bon, pas, vous pas, moi. Je parle de moi, là. Mais on le demande même quand on sait qu'il n'est pas d'accord. Tordu, des fois. On n'est pas sûr, mais bon, on tente le coup. On ne sait jamais, peut-être que Dieu va réfléchir. Mais on est comme ça, on est un peu tordu. Mais le Seigneur et Jacques nous dit qu'il faut demander selon sa volonté. La grande question, c'est de savoir, c'est quoi sa volonté ? Et on la trouve où, cette volonté ? Petit SMS, on devine, on la trouve où, sa volonté ? Alors pourquoi on ne la lit pas ? On sait où on va chercher sa volonté, on sait où elle est, mais bien rarement, on la cherche régulièrement. On connaît quelques trucs, petit Jean 3:16, ça on sait à peu près, mais bon, ça ne va pas m'aider au quotidien. Mais celui qui prend le temps de lire la Bible du début jusqu'à la fin 10 fois, je mets un peu la barre haute, comme ça je vois un peu vous, c'est encore les vacances, vous avez le temps, mais vous connaîtrez de plus en plus et de plus en plus finement la volonté de Dieu. Et quand je serai face à des choix, je me souviendrai de tel, tel, tel verset qui vont m'aider à peut-être demander tout simplement selon la volonté de Dieu. Et là, ça change complètement. Parce que BMW, non, je ne vais pas lui demander parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Je n'ai pas les moyens, donc je ne vais quand même pas demander à Dieu ces moyens-là. Par contre, évangéliser, ah oui, ça c'est sa volonté, je crois, hein, tout simplement. Donc demander selon Dieu, c'est ne pas perdre son temps. Tout simplement. Moi, je n'aime pas perdre mon temps, donc j'essaie de demander au maximum selon la volonté de Dieu et demander correctement. Est-ce qu'il y a un papa qui donnerait à son fils quelque chose qui va lui faire du tort, là, les papas ? Alors, peut-être des fois, on le fera pour lui donner une petite leçon, et Dieu fait pareil. Mais naturellement, par amour, on ne le fait pas, hein, parce qu'on aime son enfant. Et bien, Dieu fait pareil. Quand il sait que quelque chose va faire du tort, et bien, il ne va pas me le donner, tout simplement. C'est un bon papa. Et nous, on est des sales gosses qui vont encore taper des pieds en disant « Dieu m'aime pas ». Il l'a donné à l'autre, mais pas à moi. Dieu m'aime pas. On est comme ça. Donc, Jacques parle de ce chrétien charnel, hein, ou presque mondain quelque part, qui finalement va vivre sa vie chrétienne tout le temps dans la frustration et ne s'épanouira en fait jamais spirituellement. Dieu ne veut pas qu'on soit triste, Dieu ne veut pas qu'on soit frustré, Dieu veut qu'on soit heureux, tout simplement. Est-ce que vous voulez être heureux ?
Oui.
Oui. Ça veut dire qu'il va falloir travailler son cœur, profondément. Il y a à labourer là-dedans. Puis Jacques nous parle d'une deuxième chose... Ces luttes viennent tout simplement parce qu'on ne se soumet pas à Dieu, mais on se soumet au monde. Eh oui, le chrétien, des fois, vit dans le monde. Vivre selon la chair, dit verset 4, c'est vivre selon le monde. Et là, il va corriger sévèrement ces attitudes qu'avaient les chrétiens, hein, parce qu'au départ, il les appelle frères, et il le fait plusieurs fois dans son épître, mais là, il arrive à un point où il est choqué par ses frères. Et il les appelle adultères. Si je vous disais adultères que vous êtes là, on regarderait un peu... Comment il parle celui-là ? Mais c'est ce qu'il est en train de dire à ses frères, adultère. Pas adultère dans le sens qu'on connaît le mot, c'est métaphorique évidemment, mais adultère dans le sens où les chrétiens trompent Dieu parce qu'ils préfèrent aller convoiter dans le monde, préfèrent aller vivre dans le monde. Saint Augustin, je ne sais pas si vous le connaissez, disait « Je ne vous aime pas, ô mon Dieu, vous qui êtes la lumière de mon cœur, la lumière intérieure de mon esprit et l'époux qui soutenait et fortifiait mon âme. » Je ne vous aime pas et j'étais séparé de vous comme un adultère spirituel. Et dans cette fornication, j'entendais de tous côtés retentir cette voix à mes oreilles. Courage, courage, car l'amour qu'on a pour le monde est un amour adultère qui nous éloigne de vous. Il parle de Dieu là. Et l'on nous crie, courage, courage, persévérez dans cette vie mondaine, afin qu'étant hommes comme les autres, nous ayons honte de n'être pas aussi enchantés de ce fol amour et aussi perdus que sont les autres. Lui était dans le monde autrefois et souvent il fait la comparaison entre la manière dont il vivait dans le monde et cette vie maintenant qu'il a avec Dieu. Adultère, c'est vouloir agir comme le monde. Et le monde, c'est tellement tentant. C'est tellement bon le monde. Je suis désolé de le dire, c'est vrai. C'est tellement tentant. Et on est vraiment des fois jaloux de ne pas pouvoir agir comme eux. Le problème, c'est que si je veux vivre comme le monde, je deviens ennemi de Dieu et ami du diable. Parce que le diable est prince de ce monde. Alors le monde, ce n'est pas la terre avec ses arbres, etc. Le monde, ce n'est pas les gens. Hein. Quelqu'un disait, en définissant le monde, en fait j'ai plusieurs définitions, le monde, c'est la vie de la société humaine organisée sous la puissance du mal. Ils agissent peut-être pas clairement en disant on veut suivre le diable, mais ils ne le savent pas. Mais en tout cas, le diable est derrière. Un autre écrivait, le monde, c'est l'organisation de l'existence mortelle considérée comme séparée de Dieu. Il n'y a rien à voir avec Dieu dans le monde. C'est pareil. Donc le monde est le terme collectif de tous ceux qui sont dans les ténèbres. Faire partie du monde, c'est être dans les ténèbres. C'est donc ce système, quelque part, qui s'oppose délibérément à Dieu, qui ne veut pas de Dieu. Et un chrétien qui connaît ces choses-là et qui se met dans le monde, c'est d'autant plus coupable parce qu'il le sait. Et là, il devient quelque part ami de Satan, ami du monde, et ça c'est bien triste. On n'est pas complètement dans le monde, généralement, mais on a un pied des fois dedans. Et là, ben, Dieu n'est pas d'accord et il parle de nous comme adultères spirituels. C'est grave quand on y réfléchit, c'est grave. L'amour du monde, dit, il est inimitié contre Dieu. C'est être ennemi de Dieu, mais approuvé du monde. Je m'oppose à ce moment-là à Dieu, quand je laisse satisfaire ma chair, tout simplement. On ne s'en rend pas compte, hein. Mais Dieu, lui, il voit tout ça. Ainsi, aimer ce que le monde présente, c'est faire tout ce que Dieu ne veut pas. Quand j'agis comme le monde, je fais ce que Dieu ne veut pas. Et je suis coupable. Jacques continue au verset 5 et 6 et dit « L'amour du monde est quelque part contraire à Dieu ». Et c'est des versets un peu compliqués, on va juste le relire, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Au verset 5, il dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles ». Il y a deux petites difficultés là pour ceux qui aiment la théologie, tout simplement. Mais la première, c'est de savoir pourquoi Jacques dit « Selon l'Écriture, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous ». Il n'y a aucun passage qui parle en fait de ça dans toutes les Écritures, ni même dans les apocryphes, hein, disent certains. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire Jacques là? Il se trompe, il ne se souvient pas d'une référence. Alors beaucoup pensent plutôt qu'il est en train de... Peut-être un jour vous prendrez le temps d'étudier ça, mais beaucoup pensent qu'il parlait de la parole en général. L'Écriture nous enseigne que, évidemment, depuis le début jusqu'à la fin, que l'orgueil, l'idolâtrie, les péchés, la convoitise, tout ça, c'est dans la Bible, tout simplement. Et elle nous enseigne qu'il ne faut pas le vivre, tout simplement. Quand il a envie d'être précis, hein, quand il va citer au verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux », il reprend tout simplement le Proverbe 3, 34, hein, il est en train de le reprendre. Donc ça veut dire que quand il veut citer vraiment un verset, il sait le faire, tout simplement. Là, je pense qu'au départ, il a résumé, tout simplement. La deuxième difficulté, c'est de savoir de quel esprit Dieu chérit, quel esprit est chéri par Dieu. Vous avez peut-être dans vos Bibles un E majuscule, d'autres auront un E minuscule. Est-ce que Dieu chérit l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qu'il a mis en nous, ou est-ce qu'il chérit l'esprit, c'est-à-dire notre pneuma, hein, notre esprit en tant qu'homme, tout simplement? Alors, dans le grec, il n'y a pas le mot Dieu. Je vous fais un peu de théologie juste entre deux, mais ça a son importance peut-être. Mais évidemment, Dieu est sous-entendu. Dans Darby, lui traduit avec un petit E, c'est bien? Il a un grand E. Ah bon? Oui, mais oui, non, parce qu'il faut voir le commentaire, parce que c'est au début de la phrase, c'est pour ça qu'il y a un problème. En tout cas, on ne va pas se battre ce matin pour savoir s'il faut mettre un grand E ou un petit E, je vous laisserai chercher, il y a plein de solutions. Peut-être la solution, c'est de se dire que si c'était le Saint-Esprit éventuellement, ben Dieu a un droit sur nous. Parce qu'à partir du moment qu'on est le Saint-Esprit, on est appelé aussi esclave de Christ. On est ses enfants, mais on est censé aussi le servir. Et si Dieu a un regard sur moi, et que je deviens un chrétien mondain, il a le droit de me reprendre. On est bien d'accord. Si c'est simplement l'esprit de l'homme, que Jacques voulait dire là, ben il ne veut pas qu'on en fasse n'importe quoi non plus. Je pense que les deux peuvent travailler ensemble. Et si notre esprit en tant qu'homme ben, convoite et lutte, Dieu n'est pas d'accord du tout avec cela. Ce qui est certain, nous dit Galates 5, 17, c'est que « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que, que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » L'esprit de Dieu, la chair, avec notre esprit, on va dire d'homme, ne sont pas d'accord du tout. Ils sont toujours en train de se battre, tout le temps. On aimerait des fois que le Saint-Esprit gagne, mais la chair, elle est forte. Hein. Et elle est capable des fois d'avoir des sacrées victoires aussi. Mais ces choses-là sont totalement opposées et ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et c'est pourquoi il vaut mieux laisser faire l'Esprit dans notre vie plutôt que de convoiter. Hein. Parce qu'il dit ensuite, hein, par rapport à cela, il nous accorde au contraire une grâce plus excellente. Une grâce plus excellente. C'est-à-dire que nous, on perd son temps à convoiter, à souffrir, alors que Dieu veut nous faire la grâce de nous donner des choses, et les bonnes choses, tout simplement. On est bête quand on y réfléchit un peu. On cherche des choses qui nous font du mal, et à côté, Dieu est là, et il attend, hein, simplement, qu'il veut nous donner de bonnes choses. Pourquoi on aime bien les mauvaises choses, plutôt que les bonnes choses pour nous? On est tordu, on est maso, je sais pas. On est chrétien, hein, je parle des chrétiens, on est comme ça, hélas. On préfère des fois les mauvaises choses que les bonnes choses. Et Dieu nous donne toujours ce qui est de meilleur. Quelqu'un écrivait, parlant d'une histoire, hein, un pasteur raconte il y a plusieurs années, notre famille a visité les chutes du Niagara. C'était le printemps et des morceaux de glace se déplaçaient sur la rivière. J'étais jamais là-bas, mais peut-être que... Comme je regardais les grands blocs de glace qui s'en allaient vers les chutes, je pouvais voir qu'il y avait des carcasses de poissons morts pris dans la glace. Les mouettes, en grand nombre, suivaient le courant de la rivière, se nourrissant du poisson. Quand elles arrivaient au bord des chutes, leurs ailes se déployaient et elles échappaient aux chutes, tout simplement. Et c'est où, hein, il me semble, la chute du Niagara. Il dit, j'ai regardé une mouette qui paraissait différer son envol et je me suis demandé quand elle partirait. Elle était absorbée dans la carcasse d'un poisson et quand elle est arrivée au bord des chutes, finalement, elle a étendu ses ailes puissantes. L'oiseau a battu et battu des ailes. Elle a même soulevé la glace hors de l'eau et je pensais qu'elle s'échapperait. mais elle avait trop différé au point que ses griffes avaient été gelées dans la glace. Le poids de la glace était trop grand et la mouette a plongé dans l'abîme. Je peux le remettre ? Non ? Bon, je vais parler un peu plus fort. Pour finir, les attractions les meilleures de ce monde deviennent mortelles quand nous sommes trop attachés. Elles peuvent nous conduire à notre destruction si nous ne pouvons pas les lâcher. Et comme quelqu'un l'a fait observer, oh le grand danger quand on repousse toujours à plus tard. L'idée là, c'est de se dire que je sais que je suis peut-être en train de faire des choses mal, je suis peut-être dans le monde, mais on va s'y mettre, hein. On va s'y mettre. Vivement le début de l'année pour prendre les bonnes résolutions. Mais le problème, comme cet oiseau, c'est que des fois, on pousse, et à un moment, on chute, tout simplement. Et le Seigneur ne veut pas qu'on chute, évidemment. Il nous offre des choses bien meilleures plutôt que de chuter. Il nous offre sa grâce, des grâces même, tous les jours, à nous, évidemment, de les saisir. Et il dit, Jacques, il vaut mieux vivre humblement qu'être orgueilleux, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Le mot en grec veut dire « Dieu se met en bataille contre moi quand je suis dans l'orgueil ». Vous avez envie de lutter contre Dieu, vous ? Ah ouais, imaginez Dieu en bataille contre vous, avec ses anges et tout, là. Allez, on va se battre un petit peu, là. Hein ? Je crois que c'est perdu d'avance, il me semble. Hein ? Mais on est tellement mauvais, des fois, qu'on est capable de défier Dieu. Jacob l'a fait, hein ? C'est pas gêné, lui, hein ? Bon, ça, il a payé cher, derrière. Mais des fois, on est comme ça aussi, mais on n'en a même pas conscience, hélas. Mais Jacques nous dit qu'il vaut mieux vivre humble, parce que Dieu ne va pas exaucer les orgueilleux, ceux qui ont des luttes, ceux qui font des disputes, ceux qui sont en guerre tout le temps. Il exauce ceux qui sont humbles, tout simplement. Si le chrétien charnel est soumis au monde, ce qui nous arrive parfois, bah Dieu désire que le chrétien lui soit plutôt soumis à lui et qu'il laisse le Saint-Esprit agir dans sa vie. Et dans un troisième temps, Jacques nous parle justement de cette soumission à Dieu. Du verset 7 à verset 8, il dit qu'il faut se soumettre maintenant à Dieu. Et plutôt qu'au diable, quelque part. Le mot « soumettre » parle de... C'est un terme, en fait, militaire. C'est une soumission qui est volontaire, une espèce de coopération. Je ne sais pas si vous étiez à l'armée, là, les messieurs, mais quand le capitaine ou quelqu'un disait « garde à vous », qu'est-ce que vous faisiez ? Ouh, on va voir tout à l'heure, hein. Bah, là, on était en taule tout de suite. On devait obéir. Et bien, le mot veut dire la même chose, tout simplement. Quand on dit être soumis à Dieu, ça veut dire « garde-moi ». Que Dieu est plus miséricordieux que les capitaines à l'époque. Mais quand même, l'idée est là. Dieu veut qu'on soit soumis, ça veut dire qu'on est au garde à vous quand il nous demande de l'être. Et c'est toute la vie, normalement. Se soumettre à Dieu, c'est ne pas être soumis au diable. C'est s'opposer à lui. Parce que quand j'ai des convoitises, c'est pas encore un péché, mais si je commence à y aller plus loin, ça devient un péché. Et là, Satan, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, eh bien, Emmanuel, t'as bien travaillé, là. Maintenant, t'es opposé à Dieu. Et moi, je suis content. Et moi, je vais t'enfoncer encore plus, si c'est possible. Parce que là, on se met aussi en danger, quelque part. Si je suis soumis en Dieu, je prends position vis-à-vis du monde, vis-à-vis de Satan. Et je veux vivre selon Dieu et non pas selon le monde. Et s'il n'y a plus de passion au fond de moi, bon, il y en aura toujours, mais de moins en moins, s'il n'y a plus de lutte, eh bien le diable ne pourra plus les exploiter. Et quand il n'y a plus rien à faire, qu'est-ce qu'il fait ? Ciao ! Je ne peux plus rien faire. Donc il fuira tout simplement loin de nous. Mais il ne fuira pas tout seul. Il attend que nous agissons, que nous fassions le premier pas en nous soumettant tout simplement à Dieu. Et là, il va s'enfuir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, parce qu'il dit qu'il route quand même. Mais si je suis tout le temps dans la lutte, dans la passion, je lui laisse accès, tout simplement. Je lui laisse accès. Et forcément, après, j'ai une vie chrétienne un peu tristounette. C'est dommage, mais ça dépend de moi, tout simplement. Verset 8, il dit « Alors, approchez de Dieu ». Approcher de Dieu, ça ne se fait pas naturellement. Personne ne le fait naturellement. Naturellement, on a plutôt tendance à s'éloigner de Dieu. Mais il dit, approcher de lui, c'est une décision volontaire que d'avoir une proximité avec le Sauveur. Je veux être avec mon Seigneur. Je veux être proche de lui. Il ne peut pas le faire à notre place. Sinon, on est des robots. Il veut que ce soit moi qui ai envie de m'approcher de lui. Et pour ce faire, le Seigneur nous dit qu'on peut prier. Au lieu de prendre le temps de convoiter, j'aime bien ce qu'a l'autre, si je commençais à prier tout simplement au lieu de convoiter, je ne perds pas du temps, comme on l'a vu, mais je vais demander à ce moment-là à Dieu, est-ce que tu veux peut-être vraiment que j'ai ce que je convoite ? Dieu va lui dire peut-être non, tout simplement. travers de sa parole. Je ne vais pas perdre mon temps, mais je vais demander à Dieu. Et en faisant cela, je m'approche aussi de Dieu. Et j'ai besoin de m'humilier pour le faire, parce qu'on ne s'approche pas de Dieu non plus n'importe comment. Et quand je fais cela, quand je prie, tout simplement, ben ça va mieux. La convoitise s'en va tout doucement. C'est formidable. Par la parole, évidemment, on peut s'approcher de Dieu. Hein, parce qu'en lisant la Bible tous les jours régulièrement, on va tomber sur un ou deux versets qui, des fois, nous font tilt. Tiens, c'est bizarre. Je ne savais pas que Dieu n'était pas d'accord avec ça. Au travail. Mais si je ne suis pas confronté à cette parole de Dieu, forcément, ma chair va continuer à vivre, croyant que peut-être elle fait ce que Dieu veut. Lire la Bible, c'est bon. C'est très bon. Il faut la lire. Mais comme on n'aime pas se faire du bien, on ne la lit pas. Hélas. Bon, puis pour vous. C'est ainsi qu'on peut s'approcher de Dieu, parce que s'approcher de Dieu, c'est faire le premier pas. Lui, il ne nous force pas. Il aimerait tellement que tout le monde s'approche tous les jours régulièrement, au travers de la prière, au travers de la parole, mais ne forcera pas, parce qu'il veut que ça soit mon intention. Il veut que ça soit moi qui quelque part, démonte mon amour pour Dieu. Parce que là, je montre mon amour aussi pour lui. Verset 8, toujours à 10, se soumettre comment ? Ben, par la repentance. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Il dit ça aux frères, nettoyez vos mains, pécheurs. Pour ça, avant de le faire, il faut d'abord reconnaître sa nature. Oh, autrefois, quand je me suis converti, j'ai bien reconnu que j'étais pécheur, parce que sinon je ne me serais pas repenti, évidemment. Mais après 20 années de longue vie chrétienne, douloureuse, et c'est quoi la nature pécheresse ? Ça ne veut plus rien dire des fois dans notre vie. Souvenons-nous que nous avons une nature pécheresse. Il faut le reconnaître. Tant que je ne le reconnais pas, je ne pourrai pas aller vers la repentance, ni la soumission quelque part. C'est une reconnaissance constante. On doit se souvenir qui nous sommes réellement dans notre cœur. Et quand il dit nettoyer vos mains, les mains, ça concerne les actions. C'est ce que nous faisons. Ça vient du cœur, évidemment, on va en parler après, mais c'est ce que nous faisons avec ces mains. Et il faut avouer à Dieu, ben, qu'est-ce que je fais avec ces mains, bien souvent, à travers des convoitises, des luttes, etc. etc. Purifier les cœurs, hommes irrésolus. Verset 8 toujours. Le cœur concerne les motivations. Les mains agissent quand le cœur a pris la décision ou est motivé par quelque chose. Mais c'est le cœur qu'il faut nettoyer d'abord. Parce que c'est lui qui va imaginer, convoiter, provoquer les luttes, les disputes, etc. Il parle d'homme irrésolu dans le sens où on a des fois un double amour. On aime Dieu, mais on aime bien la chair aussi. C'est bon la chair. Ah, Dieu, il m'a gracié, je l'aime. Extraordinaire. La chair, je l'aime aussi, celle-là. Et des fois, on est double dans notre cœur. On le sera toujours, hein, je suis désolé, je ne veux pas vous démoraliser non plus, mais on va devenir de moins en moins, j'espère en tout cas, au fur et à mesure. Mais on est double, irrésolu, parce qu'on ne sait jamais qui choisir. Je pense que vous êtes tous comme moi, on aimerait être parfait devant Dieu, non ? Enfin, si vous n'avez pas cette motivation, alors posez-vous la question. Hein. Mais on aimerait, on n'y arrive pas, évidemment. Mais on peut aller de mieux en mieux. Travail de sanctification que Dieu veut faire dans notre vie. Et j'espère qu'au bout de 20 ans, il y a des choses qui ont changé quand même dans vos vies. L'âge, ça c'est sûr, mais ça c'est parce que Dieu veut travailler. Mais cet homme irrésolu doit simplement accepter que Christ devienne son maître. Vous savez, si on veut marcher entre Dieu et la chair, c'est un grand écart. Je ne suis pas fan de gymnastique, moi, je n'arrive pas à faire le grand écart. Ça fait mal à un moment, très très mal. Mais c'est pareil spirituellement. Si je veux marcher sur les deux chemins, je fais un grand écart et ça me fait mal au bout. Et je ne serai jamais de toute façon satisfait de cette façon de vivre. Verset 9, il dit « se soumettre en s'humiliant ». Vous aimez bien vous humilier ? Devant Dieu, on arrive un peu mieux. Et encore, on bataille des fois. Devant les autres, alors là, c'est difficile d'accepter ses erreurs. Mais je pense qu'il s'agit de s'humilier là devant Dieu. Sentez votre misère. Là, il faut s'arrêter un moment dans sa vie. C'est ce qu'il veut faire à ces chrétiens. Sentez votre misère. C'est être affligé, se sentir vraiment honteux de mes querelles, de mes convoitises, de ma façon d'agir avec les autres, de mes passions. Il faut s'arrêter pour faire ce bilan-là. Et se sentir honteux, ce n'est pas toujours évident non plus. Déjà, il faut le réaliser avant de vouloir être honteux. Et dit comme étant dans le deuil, pleurer sur ces passions qui finalement vous font souffrir, et parfois même font souffrir l'Église. Parce souvent, ça a des répercussions sur les autres. Mais ça commence à cause de moi. On est toujours capable de juger les autres, mais on ne veut pas faire le bilan d'abord chez soi. Parce que si tout le monde faisait le bilan chez soi, et arrêtait de convoiter, de lutter, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'Église parfaite. Très chouette, une Église parfaite. Sans dispute, jamais. Je m'ennuierai un petit peu, mais je veux bien m'ennuyer. hein, pas régler les problèmes. Mais ça serait merveilleux de vivre cette Église. Et Dieu veut ce type d'Église, tout simplement. Se soumettre, se sentir misérable devant Dieu, changer le rire en deuil et la joie en tristesse. Ouais, moi j'aime bien rire, hein. Moi j'aime bien rire, j'aime beaucoup être dans la joie. Et ces moments où on doit passer par la tristesse, comme il dit, hein, ces moments de remise en question, moi je les aime pas. Je sais pas vous, je pense que vous êtes comme moi, hein. Personne n'aime se remettre en question, mais il faut savoir s'arrêter. Maintenant, on va un peu arrêter de rigoler, etc. Et on va s'arrêter, cesser les futilités peut-être de notre vie et se mettre vraiment en question devant Dieu. Hébreux 12, 11 dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui en sont ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Parfois, Dieu nous arrête dans nos péchés, dans nos bêtises, et on est triste. Moi, ce n'est pas la tristesse comme le monde. C'est une tristesse parce que c'est papa qui nous a « corrigés », entre guillemets. Mais si on l'accepte, ça va changer notre vie, ça conduit à la sanctification. Et finalement, on va ressortir de cette tristesse bien joyeux, un peu nettoyé, on va dire, et mieux. Et on recommencera certainement pas. Mais parfois, Dieu nous reprend. Mais il veut aussi que nous-mêmes, des fois, on s'arrête. Hein, parce que Dieu ne reprend pas tout. Et de temps en temps, c'est bien de faire le bilan, savoir où j'en suis vraiment dans ce domaine-là. Et là, ben souvent, ben, on va devenir triste. Selon la tristesse de Dieu, on lui demandera pardon. On va lui demander de nous aider à arrêter ce qui est là dans notre cœur et qui nous bouffe tous les jours pour changer tout simplement et être à son image. Verset 10, il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur ». S'humilier, on le sait à peu près, mais quand on veut vraiment s'humilier, c'est s'agenouiller devant Dieu. Je ne sais pas si vous priez des fois à genoux. Faites l'expérience. Ce n'est pas pareil que de prier vite fait comme ça, à droite, à gauche. Hein. S'arrêter, se mettre à genoux devant Dieu, le reconnaître comme Dieu. Et moi comme pécheur, ça change la façon de prier, ça montre qui est Dieu, ça montre où j'en suis vis-à-vis de lui aussi. Et c'est ça qu'on appelle s'humilier. S'humilier à cause de notre culpabilité qui est réelle. Et on a tous quelque chose à avouer, je suis désolé de le dire. Avouer notre péché, ça fait du bien des fois. Faire-le, hein, nettoie, fais le ménage tout simplement dans notre vie. Dieu corrige ses enfants, il ne le fait pas pour nous briser, comme les chrétiens le font des fois avec d'autres chrétiens. Il aime bien casser l'autre quand il a fait quelque chose de mal, comme ça. Hein. Non, lui, il ne veut pas nous briser, il veut nous élever, dit le texte. Son but, c'est de nous soumettre, de nous humilier, pour finalement nous élever. Sortir tout ce qui est mauvais de notre cœur, et finalement nous faire du bien. C'est génial quand Dieu nous arrête, non ? Il va nous faire du bien au bout. Et moi, je me bats pour ne pas avoir du bien dans ma vie. Et je lutte, hein, et on lutte des fois terriblement. Et finalement, je vais ressortir élevé, quelque part, ça veut dire que je suis un peu plus mûr que la dernière fois. Vous êtes mature ? La foi est triste. Ça ne passe que par là. Il y a les épreuves, évidemment, mais il y a aussi ces remises en question très sévères dans notre vie, où on s'humilie devant Dieu et on accepte de se soumettre à lui aussi. Et vivre humblement, c'est vivre selon ce que Dieu demande. Mais ce qui est formidable, c'est que si on vit humblement, on ne souffre plus les souffrances de la chair, les souffrances des passions, les souffrances des querelles. Et quand j'ai plus à me battre avec les autres, c'est beau, hein ? Le ciel est bleu, mon cœur est en paix. C'est formidable. Mais on ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on est pécheur, évidemment. Mais souvent, on ne veut pas changer pour vivre de cette manière-là. Se soumettre à Dieu est bénéfique, finalement, nous dit Jacques, pour le chrétien, parce qu'il devient riche, pleinement riche en Dieu, de toutes ses grâces et de toute sa paix, de tout son amour. Pour terminer, Jacques identifie la réalité des chrétiens. Hein. Il est un peu brut de décoffrage, hein, comme on dit des fois. Il dit les choses clairement, ce qui se passe vraiment dans l'Église. Hein. Souvent, on essaie un peu de... Non, il dit les choses comme elles sont là. Ces passions dans l'Église à l'époque et aujourd'hui encore détruisent la relation avec Dieu, détruisent la relation avec les frères et les sœurs. Si on veut vivre comme ça, dites-vous que vous allez détruire l'Église. Et vous-même déjà, qui n'est pas terrible. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent comme le monde ou selon la chair. Ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, qu'on y arrivera totalement, mais il ne veut pas. Et donc, au moins avoir cette motivation, lui, il ne veut pas qu'on soit soumis au diable. C'est, attendez, je vous ai racheté. Ce n'est pas pour vous remettre encore sous la domination du diable. Donc, il y a une contradiction. Ce que lui, il veut, c'est qu'on change. Il faut changer, surtout dans le domaine où parfois nous ne faisons pas confiance à Dieu. C'est ça notre problème. Nos convoitises, nos passions, nos luttes souvent sont parce qu'on n'a peut-être pas confiance en Dieu dans certains domaines de notre vie, dans les projets ou autres. Hein. Ou parce que, voilà, il y a des conflits dans l'Église. Il faut être patient des fois et on n'a pas envie. On a envie de régler tout de suite. Non, il faut faire confiance à Dieu qui connaît tous nos besoins, qui connaît comment m'aider moi, qui connaît comment aider l'autre. Et des fois, ça prend du temps. Mais il faut lui faire confiance. Et si on laisse Dieu agir, plutôt qu'agir nous-mêmes, eh ben, les choses vont aller bien, tout simplement. Il faut changer. Changement, c'est maintenant. Vous avez compris ça. Mais nous, on l'a compris. Un chrétien épanoui, ça veut dire un chrétien qui est mûr, est un chrétien qui est humble. Et cette humilité, ce n'est pas le dimanche matin seulement qu'il doit l'avoir, parce que là, on arrive à l'être à peu près, mais c'est toute la journée que je dois être humble, me soumettre à Dieu, désirer ce que Dieu veut pour moi, tout simplement. Désormais, le vrai chrétien, on va dire, hein, il ne compte plus sur lui-même. C'est la foi, hein. À un moment, il faut lâcher. Vous aimez sauter dans le vide? Vous avez déjà essayé? Peut-être avec un parachute, hein. C'est pas la foi, ça. Mais la foi, c'est se dire, ok, j'arrête de lutter avec mes forces, je laisse faire Dieu, tout simplement, et il est capable de pourvoir à tous mes besoins, il est capable de répondre à toutes les situations, mais il faut que je compte sur lui et non pas sur moi-même. Et là, toute la vie va d'un seul coup changer, parce que j'ai pas besoin de convoiter, j'ai juste à prendre le temps de prier, de chercher dans la parole de Dieu, de lui demander, et Dieu est formidable, il répondra. Que le Seigneur nous aide dans ce domaine de notre vie et qu'on puisse changer, nous améliorer, moi le premier, évidemment. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et merci pour cette épître de Jacques, très claire, très pratique dans notre vie. Je crois que tu connais, même avant que nous les ayons, toutes ces luttes, tout ce qui nous fait du tort dans notre cœur, ces querelles, ces passions, ces convoitises qui nous habitent au quotidien, Seigneur, et nous voulons te les déposer ce matin devant toi. Pardon, Seigneur, d'agir ainsi alors que nous sommes graciés, alors que finalement tu veux nous donner absolument tout, selon ta volonté évidemment, pas la nôtre. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance, apprends-nous à lutter contre la chair. Aide-nous dans ces combats qui sont parfois très difficiles. Mais tu veux nous donner aussi la victoire, Seigneur. Et ça, c'est notre force, c'est notre joie. Apprends-nous à désirer cette sanctification au quotidien, cette transformation que tu veux faire en chacun d'entre nous. Aide-nous tout simplement, Seigneur, dans ce qui est au final quelque chose d'absolument bon pour chacun d'entre nous. Apprends-nous à nous pardonner les uns les autres, Seigneur. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres aussi, en chassant toutes ces passions qui sont évidemment du diable. Que ton nom soit glorifié ce matin, en Jésus-Christ. Amen. Amen.